au Seigneur. Te bénissons notre Dieu et nous te glorifions. Merci pour ta grâce et pour ton soutien. Nous sommes devant toi, notre Dieu. C'est vrai. Nous te demandons, notre Dieu, de répandre sur nous ta grâce. Elle est suffisante, ta grâce, notre Dieu. Merci, roi de gloire. Merci, Seigneur des Seigneurs. Béni sois-tu, notre Dieu. Nous t'aimons, Seigneur, et nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Oui, notre Dieu, c'est toi qui peux ranimer notre flamme. Et nous te sommes reconnaissants, Jésus. Merci, notre roi. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est toi qui ranime ta flamme à nous. Réponds sur nous, notre Dieu. Ta grâce. Merci pour ce temps particulier dans le monde. Toi, tu sais toutes choses. Tu es l'agneau, le lion de la tribu de Juda. Tu es Jésus-Christ. C'est toi qui détiens le livre et c'est toi qui es digne d'en ouvrir les sceaux. Et nous te faisons confiance quant à la conduite de l'histoire de notre humanité. Merci pour ta grâce, car c'est toi qui la répands aussi, notre Dieu. Et nous te bénissons pour cela. Merci pour ce temps ce matin où nous pouvons communier avec toi, où nous pouvons lire ta parole, la méditer, l'étudier, pour entendre la voix de Dieu, pour entendre l'Esprit de Dieu, pour entendre notre Seigneur et notre Dieu nous parler. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bonjour encore, bien-aimés. Que la grâce de Dieu, qui est suffisante, continue de nous porter dans ces temps particuliers. Je l'avais déjà indiqué lors des précédentes prédications, jusque peut-être au dimanche de Pâques, nous serons encore dans cette étude du livre de l'Apocalypse, et puis nous ferons certainement une pause par rapport à la Pâque et nous verrons tout au long des mois qui viennent comment continuer en intercalant avec d'autres livres bibliques notre prédication, notre message et notre enseignement. Nous avions parcouru jusque-là les 6 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse. Nous avions vu dimanche dernier le chapitre 6 avec l'ouverture des sceaux, n'est-ce pas? Nous avions vu l'ouverture du 5e et du 6e sceau. Le 5e et le 6e sceau, et ce 6e sceau était un sceau terrifiant, n'est-ce pas? C'était le sceau où nous avions l'histoire du jugement dernier. Où ce chapitre 6 s'achevait avec cette question, voilà, qui résonne encore aujourd'hui et que nous verrons dans ce chapitre 7, au verset 17 du chapitre 6. Le chapitre 6 se termine avec ce verset 17. Car le grand jour de leur colère est arrivé, et qui peut subsister? Et qui peut subsister à la colère de Dieu? Voilà le ton avec lequel s'achevait le chapitre 6. Lisons pour introduire notre temps de ce matin, le chapitre 7 de l'Apocalypse. Après cela, au verset 1, je vis 4 anges debout et 4 aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des enfants de notre Dieu, des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Asser, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issacar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Verset 9. Après cela, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des branches de palmier à la main. Et ils criaient : Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants. Ils tombaient face contre terre devant le trône, prosternés devant Dieu, en disant : Amen. La bénédiction, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force à notre Dieu à tout jamais. Amen. Alors, l'un des anciens me demanda, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus ?» Je lui répondis, « Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Ils lui rendent un culte jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui est assis sur le trône les abritera dans sa demeure. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Terminons avec le début du chapitre 8, juste le premier verset du chapitre 8. Il est dit dans ce premier verset, « Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. » Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu, bien-aimé. Voici que nous continuons à explorer cette parole, à regarder dans cette parole de notre Seigneur, cette révélation qui a été confiée à Jean dans une vision que Jésus lui montre, que l'agneau de Dieu lui montre, que le lion de la tribu de Juda lui montre, et nous avions compris que ces cinq sceaux étaient levés par l'agneau de Dieu, par Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui était seul digne et capable de donner le cours de l'histoire, de la création. Et nous avions vu jusque-là qu'il avait ouvert les six sceaux, n'est-ce pas? Et nous sommes comme dans une pause, n'est-ce pas? On voit que par rapport à ce chapitre 6, où on avait encore des descriptions de scènes terrifiante, hein, de la colère de Dieu, on en avait parlé dimanche dernier, de ce jugement de Dieu qui vient, qui sera terrible. Dieu est un Dieu de grâce. N'oublions pas que c'est un Dieu juste et que ce qu'il nous dit, c'est que sa grâce court encore, mais que son jugement viendra. Et on a vu dans ce texte qu'il est terrible de tomber sous le jugement de Dieu. Alors l'appel de Dieu, ce n'est pas que les hommes soient jugés, soient condamnés, c'est que plutôt, la grande partie en tout cas, ceux qui ouvrent le cœur, viennent à lui et qu'ils soient sauvés. Alors on a de ce chapitre 7 comme une pause depuis que ce sixième sceau a été ouvert, depuis que cette question a été posée à la fin de ce chapitre 6, qui peut subsister? Alors là on voit que ça s'ouvre avec une vision de quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Comment comprendre cette vision? Au-delà de tous les aspects géographiques ou géométriques qu'on peut voir dans ce texte, et peut-être que ce n'est pas l'idée du texte, mais on peut voir qu'il y a une forme d'assurance que les anges de Dieu veillent sur le monde entier et que personne n'échappe à leur contrôle. C'est un peu l'idée qu'on peut voir dans, on va dire, ces quatre coins cardinaux qui sont un peu comme l'entièreté de notre monde et que de la terre, et justement que Dieu, au travers ses messagers que sont les anges, veille sur le monde entier. Personne n'échappe au contrôle de Dieu. Quelle était leur mission alors? Ils ont pour mission de retenir les quatre vents. Le vent ici peut être comme la symbolique de ce qui détruit, n'est-ce pas? Le vent est parfois le symbole naturel de la destruction. Et ces anges ont pour mission d'empêcher cette destruction, d'empêcher que ce vent, n'est-ce pas, souffle sur la terre, sur la mer, sur les arbres. Et pourquoi? Parce qu'il est dit, n'est-ce pas, un peu plus loin, parce que Dieu a décidé que le temps n'était pas encore venu de cette destruction. Et le but, c'est que Dieu va sauver des hommes encore avant le temps de la destruction. Alors, devant cette question, il faut toujours la garder dans notre pensée, cette question à la fin du chapitre 6, qui peut subsister au jour, au grand jour de la grande colère de Dieu? Qui peut subsister? Et on a comme un lever de rideau sur la réponse dans ce chapitre 7. Pour répondre, c'est un autre ange qui monte du côté du soleil levant. Comment comprendre que cet ange monte dans cette vision du côté du soleil levant? On peut dire simplement que ce côté a un peu le symbole, n'est-ce pas? Tout pointe le jour, le soleil levant. Hein, symbolise donc la bénédiction, le soleil levant, d'où pointe le lever du jour, hein, la bénédiction, cet ange. On a cette image, n'est-ce pas, de l'Orient, du soleil levant, de l'Est, on le voit aussi un peu dans la trame de fond, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Hein? Si on se réfère au Jardin d'Éden, qui était situé à l'Est, n'est-ce pas, si on se réfère aussi au Temple, hein, dans lequel la gloire de Dieu est entrée par le côté Est, n'est-ce pas, hein? Et quand on lit aussi, n'est-ce pas, l'Évangile de Matthieu chapitre 2, on voit, n'est-ce pas, que les mages sont venus d'Orient pour, n'est-ce pas, pour voir la bonne nouvelle, la naissance du Christ. Ces images de l'Orient nous montrent la bénédiction de Dieu. Cet ange donc qui se lève vient avec la bénédiction de Dieu. Il tient dans sa main, qu'est-ce qu'il tient? Il tient le sceau de Dieu, le cachet de Dieu. Il tient cette marque, ce droit de propriété. Hein? Et il va s'en servir pour désigner ceux qui appartiennent à Dieu. Il va les préserver de la destruction finale. Il va les préserver en les marquant de ce sceau du jugement de Dieu qui va se fondre sur le monde. Ceux qui appartiennent à Dieu sont scellés, n'est-ce pas? Ceux qui appartiennent à Dieu sont marqués par la présence de Dieu. Et comme on l'a lu, il va ordonner aux quatre autres de ne pas faire de mal. De ne pas faire de mal jusqu'à ce que tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu, le mot serviteur ici veut dire ceux qui adorent Dieu, ceux et qui marchent selon la volonté de Dieu. Donc on peut dire tous les enfants de Dieu, tous les croyants, tous les chrétiens, n'est-ce pas, jusqu'à ce que tous les croyants soient marqués. Tous ceux dont le cœur se sera ouvert à Christ, à Dieu, tous ceux qui se seront laissés convaincre par la parole de Dieu. Lorsque tous ceux-là seront marqués, alors certainement que la permission sera donnée à ce mal final de se manifester. Qu'est-ce que nous remarquons lorsque cet ange interdit aux autres anges, aux autres messagers de malheur, sinon au vent, pas des anges, mais au vent de faire du mal? On voit que dans cette révélation, Dieu nous montre aussi que c'est lui qui impose les limites, même aux forces de la destruction. C'est lui qui tient le monde entre ses mains, même si nous pensons, même quand nous croyons, même quand nous voyons apparemment que les choses ne sont pas sous son contrôle, que le mal prend de l'ampleur, que la pandémie est là, que les guerres se multiplient. La Bible nous dit, en tout cas dans la révélation de cette vision, que Dieu est celui qui impose les limites aux forces de la destruction. Et c'est un thème important qui parcourt le livre de l'Apocalypse. Dieu est au contrôle. Chaque instant de l'histoire sert à la réalisation du plan rédempteur de Dieu. Les quatre vents ne peuvent souffler, ne peuvent exprimer toute leur rage comme ils le voudraient, parce que leur mesure est contenue par Dieu. N'est-ce pas? Comment comprendre alors ces choses? Parfois, on est dépassé par le mal et on a cette question récurrente: si Dieu existe, pourquoi le mal? Et quelqu'un a plutôt cette belle réponse: justement parce que Dieu existe, le mal ne se manifeste pas encore dans toute sa rigueur, dans toute sa rage, dans toute son ampleur, parce que Dieu continue de faire agir le monde, le bien dans son monde. Alors même au sein de la persécution et face aux martyrs, les croyants ont la certitude qu'aucun fléau, qu'aucune pandémie, qu'aucune persécution ne peut les détruire spirituellement, même si ils doivent en payer le prix de la vie humaine, de la vie, on va dire, biologique. Mais leur vie spirituelle ne peut pas être atteinte, elle ne peut pas être touchée, parce qu'ils vivront éternellement dans la présence de Dieu, parce qu'ils lui appartiennent, parce qu'ils sont marqués du sceau de Dieu. Ceux qui portent ce sceau, ce sont les adorateurs de Dieu, ceux qui adorent Dieu, ceux qui adorent Jésus-Christ, de tous les êtres, et qui sont en tout temps l'objet de la grâce de Dieu. Voilà ce que nous pouvons comprendre au travers de cet ange qui se lève et qui marque les enfants de Dieu. Pendant que cette vision est donnée à Jean, Jean entendit le nombre de ceux qui sont ainsi marqués permanemment de Dieu, par le sceau permanent de Dieu, n'est-ce pas? C'est 144 000. Ces 144 000 ont tellement fait couler d'encre et de salive par rapport à l'interprétation de ce nombre. C'est sur ces textes que le Seigneur s'est révélé à moi. Alors que je n'étais pas encore croyant, et que j'avais un bon ami à moi, et que je faisais des efforts, moi, d'avoir une vie religieuse, des dimanches, j'allais à l'église, mais en même temps, de l'autre côté, je ne connaissais pas la Bible, je ne connaissais pas du tout ce qui était demandé à un chrétien de faire, mais vu que je suis né dans cette religion avec ses rites, je les ai faites, jusqu'à ce que cet ami me dise un matin: écoute Serge, je vois tous ces efforts que tu fais alors que tu es comme moi, tu n'es pas un croyant, tu es comme moi qui ne suis pas un croyant. Tu sais pourquoi moi je ne suis pas croyant? Parce que de toutes les façons, ça ne sert à rien de croire. Le nombre de ceux qui vont être sauvés est arrêté. Ils sont 144 000. Et il avait cette référence de l'Apocalypse chapitre 7. Moi, je ne la connaissais pas, cette référence. Et j'étais troublé par ce texte. Alors, à quoi symbole des 144 000 nous ramène? On voit qu'effectivement, dans ces 144 000, il est cité de façon nominative certaines tribus du peuple d'Israël. En même temps, si on connaît bien ces tribus, quelques-unes ne sont pas citées. La tribu de Dan n'est pas citée. La tribu de Manassé, la tribu d'Éphraïm ne sont pas citées, n'est-ce pas? Et pourquoi? Pourquoi nous n'avons pas ces autres tribus, s'il s'agit effectivement de citer exactement la tribu, les 12 tribus d'Israël? Voilà, on voit que quand on lit le texte à partir du verset 4 jusqu'au verset 8, effectivement la tribu de Manassé est citée, mais la tribu de Dan et la tribu, la tribu de Dan n'est pas citée effectivement, et la tribu Il y a deux tribus qui ne sont pas citées. Et même l'ordre de cette citation n'est pas très clair. Alors, l'une des lectures, c'est de dire que symboliquement, ces 12 tribus représentent l'Église. On lit plusieurs textes qui nous ramènent à ça. Romains chapitre 4, verset 11, où il est dit qu'Abraham est le père de tous ceux qui croient, alors que d'habitude, les Juifs réclament Abraham pour père. On dit que tous les croyants sont donc ses enfants, sont les enfants d'Abraham, Galates 3, chapitre 7. On dit que tous ses enfants, tous ses croyants forment l'Israël de Dieu, Galates 6, verset 7. On dit aussi que les croyants sont les vrais Juifs, n'est-ce pas? Romains 2, 28 à 29. Et ceux que Dieu appelle son peuple, qui lui appartiennent, selon Tite 2, 14, les vrais circoncis, Philippiens 3, 3, on voit que tous ces textes nous ramènent à l'image que finalement, la vraie Israël aujourd'hui, c'est certes les Juifs qui se sont donnés à Christ, mais aussi tous ceux qui ne sont pas Juifs. C'est un peuple, c'est le nouveau peuple de Dieu. C'est le nouveau peuple de Dieu. Et donc, on peut voir là un chiffre symbolique. La symbolique, c'est le chiffre 12 qui est multiplié par lui-même, n'est-ce pas? Et puis, la symbolique, c'est le nombre 1000 aussi, hein, qui est le nombre de la plénitude, de la qualité. Hein, et on voit que c'est 144 000. Vu la population de notre humanité, on voit bien que ce chiffre, que ce nombre du moins est trop restrictif, que c'est un petit, petit reste. On ne peut pas l'interpréter, en tout cas littéralement. Il est symbolique. Et cette symbolique veut dire que Dieu sauvera. Dieu, même si le peuple de Dieu semble insignifiant en quantité, c'est un peuple de qualité qu'il va sauver. En tout cas, pour ceux qui sont encore sur la terre, Dieu va continuer de sauver. Une petite minorité, on ne sait pas. On a un peu de mal avec l'interprétation exacte de ces 144 000. Mais l'idée, c'est toujours que cela répond au chapitre 6. Qui subsistera? Ben, il y en aura quelques-uns qui subsisteront, qui seront gardés par Dieu, qui seront fidèles à Dieu, qui garderont leur cœur dans la main de Dieu. Et pour aller plus loin, il faut mentionner effectivement que vu la complexité, n'est-ce pas, de l'interprétation de ces 144 000, on a pu voir l'image du peuple d'Israël, des Juifs qui seront sauvés, qui donneront leur cœur à Dieu, l'image de tous ceux qui étaient croyants en Israël avant la venue de Jésus-Christ, n'est-ce pas? On a vu aussi dans ce chiffre, n'est-ce pas, un chiffre symbolique qui est comme la prémisse, hein, du peuple de Dieu. Ou encore, on voit aussi que vers la fin, en tout cas, quelques Juifs, même réfractaires au fait que Jésus est le Messie, se convertiront. Si les 144 000 alors qui sont montrés ici, ce chiffre symbolique représente le peuple de Dieu sur la terre, ceux que Dieu continue de sauver. Et quand on fait les statistiques des croyants dans le monde, c'est vrai que le pourcentage est très infime par rapport aux milliards d'êtres humains que nous sommes sur la planète. Mais Dieu continue de sauver. Et c'est ce petit reste qui est symbolisé, me semble-t-il, dans ce texte. Même si on peut en faire encore d'autres lectures. Et puis ensuite, il dit, au-delà de ces 144 000, il voit tous ceux qui sont sauvés de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. Et là, on voit qu'ils sont incalculables. Le nombre de ceux-là, on ne peut pas les compter. Ceux-là sont revêtus de robe blanche, qui symbolise le salut, qui symbolise la couleur de la victoire. Ils ont des branches de palmier dans la main qui tiennent souvent, c'est l'emblème du triomphe. Ils sont triomphés de la seconde mort. Ils ont triomphé parce qu'ils ont gardé la foi, parce qu'ils ont gardé leur regard sur le Christ, sur Jésus. Le Seigneur sait qui sont les siens. Il les gardera en sécurité au temps de la tentation, au temps du danger, n'est-ce pas? Bien que l'Église de Dieu ne soit pas un grand troupeau en comparaison, comme je l'ai dit, à notre monde incroyant, notre monde athée, notre monde qui ne croit pas en Jésus-Christ. Pourtant, ce peuple n'est pas un peuple méprisable. Ce peuple est un grand peuple en qualité. Et il va s'élargir parce que Dieu va continuer son œuvre de salut dans le monde. Et puis, toutes ces personnes dans cette immensité de gens cités, ces myriades et des myriades entourées avec les êtres célestes et les anges vont chanter les louanges de Dieu, vont offrir leurs louanges à Dieu, n'est-ce pas? Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, devant le créateur, devant le médiateur, n'est-ce pas? Cette présence spéciale de Dieu est le privilège de tous ceux qui gardent leur confiance en Dieu. Et quand nous venons à Dieu, c'est par le Christ, c'est lui qui est le médiateur. Le trône de Dieu est ouvert aux croyants, le trône de Dieu est ouvert à toutes ces personnes qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Cela serait inaccessible si ce n'était pas par le médiateur, par l'agneau immolé, par le lion de la tribu de Juda. Et ils chantent cette louange à Dieu avec des voix fortes. Ils disent « Hosanna !» Ils souhaitent que l'intérêt de Dieu, que l'intérêt du Christ dans l'Église, dans le monde, soit magnifié. Alléluia! Ils donnent cette gloire à Dieu, cette gloire au Père et au Fils, n'est-ce pas? Et puis on a aussi les anges qui se prosternent, qui sont face contre terre, humiliés dans une profonde révérence. Et nous devons peut-être prendre leçon dans ces temps particuliers. Comment adorons-nous notre Dieu? Comment notre adoration, notre louange s'exprime-t-elle? Est-ce avec désinvolture? Est-ce avec légèreté? Est-ce avec vulgarité? Là, on a un modèle dans le ciel d'une adoration avec humilité, avec révérence. Que Dieu nous aide. Nous aussi, nous devons louer, adorer notre Dieu dans un cadre respectueux, dans un esprit, dans un comportement humble, dans une adresse à notre Dieu avec révérence, avec respect. Il est notre Père, il est le grand Dieu et nous lui devons respect. Ils reconnaissent que Dieu est celui qui règne, que sa sagesse n'a pas d'égal, que sa puissance est en lui-même et qu'il a la force qu'il faut. Ils déclarent que Dieu est un être béni et que Dieu mérite la louange et la gloire. Dans ces temps peut-être difficiles, nous ne sommes pas toujours enclins, n'est-ce pas, à louer Dieu, à l'adorer, à le bénir. Mais que Dieu nous aide, parce que c'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui voit tout, n'est-ce pas? Et alors, Dieu dressera sa tente sur eux, sur toutes ces personnes. Ils ont le privilège d'être devant le trône de Dieu, dans la protection de Dieu lui-même. Ils ne connaîtront plus jamais la souffrance, le tourment. Ils jureront de cette protection suprême de Dieu. Ils auront les soins pastoraux de celui qui est le bon berger, de l'agneau. Et ils vont être conduits aux sources des eaux de la vie. Ces versets qui parlent de tendresse, de consolation, n'est-ce pas? Comme on peut peut-être en trouver très peu dans ce livre depuis que nous le lisons. Mais voilà, cette consolation qui est la vérité, que Dieu essuie les larmes de ses enfants, en tout cas de ceux qui sont restés fidèles à lui jusqu'au bout et qui se trouvent maintenant auprès de leur maître. Plusieurs d'entre nous ne seront pas vivants au retour du Seigneur, pourvu que nous soyons dans la félicité de notre Dieu, dans ce temps privilégié. Et c'est là qu'on trouve un écho au psaume 91, versets 1 et 2. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Voilà la réponse qui est donnée au verset 17 du chapitre 6. Qui subsistera? Le peuple de Dieu subsistera. Qui subsistera au grand jugement de Dieu? Tous ceux qui mettront leur confiance en Christ. Tous ceux qui mettront leur confiance en l'agneau de Dieu. Tous ceux qui ne perdront pas la foi. Tous ceux qui veilleront et qui resteront éveillés à la foi. Et qui marcheront selon la volonté de Dieu. Qui marcheront selon la parole de Dieu. Qui garderont leur foi ferme, même dans des temps difficiles comme ceux que nous traversons. Et j'aimerais conclure, je reviendrai sur ce chapitre pour donner encore peut-être d'autres explications à la prédication prochaine. Mais j'aimerais conclure avec ce verset 1. qui me semble ouvrir, enfin qui ouvre le septième sceau que nous verrons certainement dimanche prochain, mais qui en son sein a une expression sur laquelle j'aimerais terminer. Lorsque l'agneau ouvre le septième sceau, la Bible dit, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. L'ouverture du septième sceau entraîne un silence dans le ciel. Cette pause, ce silence, permet de réfléchir sur ce qui se produit, même dans le ciel, depuis le chapitre 5 jusqu'à la fin de ce chapitre 7, au début du chapitre 8, il y a un temps de pause maintenant qui est donné pour que la réflexion soit faite sur tout ce qui a été déjà révélé depuis bientôt 3 chapitres. La pause permet de réfléchir sur ce qui se produit, même dans le ciel. Le silence et la réflexion sont parfois la meilleure attitude, n'est-ce pas? La meilleure attitude à adopter au milieu du tumulte de la vie, au milieu de ce temps particulier dans lequel nous sommes depuis bientôt 3 semaines pour nous. Mais dans le monde, ça fait bientôt 3 mois que nous sommes dans ce temps particulier. Et le silence peut-être s'impose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paroles qui sont libérées. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'interprétations de prophéties qui sont libérées. Mais au regard de ce chapitre 8, verset 1, j'aimerais inviter à un temps de silence. Il y a un proverbe qui dit, ce dont nous ne pouvons pas parler, nous le communiquons en silence. Ce n'est pas un proverbe biblique, c'est un proverbe dans un peuple du monde. Ce dont nous ne pouvons pas parler, nous le communiquons en silence. Nous sommes parfois tentés d'expliquer, de justifier tout ce que nous lisons dans l'Apocalypse, alors que la bonne attitude est le silence, le respect et la crainte. Il me semble aussi que devant peut-être notre incompréhension de tout ce que nous vivons dans ce temps qui est là depuis quelques mois, il nous faut parfois être silencieux devant Dieu, dans la méditation, dans la réflexion, faire une pause et regarder, écouter, laisser Dieu nous parler. Est-ce que nous comprendrons tout? J'en sais rien. Mais peut-être que si nous parlons trop, nous prendrons les risques de nous tromper. Alors gardons le silence, écoutons Dieu, regardons, réfléchissons à tout ce qu'il nous a déjà dit, à tout ce qu'il nous a dit sur la foi chrétienne, à tout ce qu'il nous a dit sur le monde, à tout ce qu'il nous a dit sur son avènement prochain, à tout ce qu'il nous a dit sur ce grand jour de la colère de Dieu, à tout ce qu'il nous a dit sur son désir de continuer de sauver des hommes et des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des enfants, de sauver tout être humain qui s'ouvre à l'appel de Dieu. Merci Seigneur, nous sommes devant toi en silence. Une pause qui nous permet de réfléchir et de te laisser nous montrer, nous guider, nous parler. Te bénissons, notre Dieu, en Jésus-Christ.